Au fil des pages, RCF. Je vous ai emmené en Papouasie avec Jean-Claude Deray pour Papoua aux éditions Alphée. C'était une histoire de souffle, on l'a dit, mais nous aurons encore une histoire de souffle avec Gérald Tenenbaum pour Souffle couplé, et on va expliciter le titre chez Héloïse d'Ormesson tout de suite. Gérald Tenenbaum, Souffle couplé. Alors moi j'ai trouvé que c'était audacieux comme roman parce que à la fois choisir une histoire intime, c'est une histoire intime, l'histoire du petit Alex, que l'on retrouve 27 ans plus tard, qui travaille dans un bar à Grenoble, qui n'est jamais remonté dans son village. Non. On se doute qu'il y a eu un drame. Tout ce qui fait écho à ce drame, tout ce qui est en petites lettres, je veux dire en italique, parfois, comme le travail de mémoire, on a plusieurs fois les mêmes phrases qui reviennent pour bien nous prononcer. C'est dire, je trouve, si ce roman, il faut le lire lentement et y revenir et ne pas se dire, j'ai déjà lu ça, je vais aller plus loin. Non, il faut bien rester, bien s'imprégner, chaque mot compte. Je dirais même chaque point, chaque virgule, chaque exclamation. Et puis, lui, enfin, semble-t-il, de ce drame, il a perdu la capacité de lire. Il lisait autrefois.
Il lisait.
Mais il a une mémoire fabuleuse. C'est-à-dire que s'il voit une affiche, comme on en voit partout, où il y a des lettres, il va vous reproduire l'affiche, mais il sera incapable de la lire.
C'est ça.
On a d'autres personnages qui vivent des drames parallèles et qui s'intéressent à lui. Alors, ou des drames, pas parallèles, mais des drames en parallèle et qui peuvent prendre une dimension, je vais dire, politique. Alors, on a le drame du couple, moi j'ai envie de dire Sandra et Raphaël.
C'est
un vrai drame.
Sandra
travaille sur la langue. Elle s'intéresse au jeune Alex, puisque elle fait de la linguistique.
Elle est psycholinguiste.
Elle
s'occupe des dyslexiques.
Dyslexique.
D'une certaine façon, c'est un dyslexique.
C'est un dyslexique.
Il a perdu l'usage de la lecture.
Et puis, on a Raphaël, le mari, qui lui a une histoire, et c'est bien une histoire de couple. Oui. Dans cette histoire, il n'y a qu'Alex qui est tout seul, encore que la mémoire qui va lui revenir par éclat, c'est un peu ça. C'est toujours du couple aussi. Et puis, comme on est à Grenoble et pas très loin de l'Italie, on a quand même des gens qui fréquentent le bar, un bar italien, et on est forcément en lien avec d'autres couples de gens qui avaient de l'idéal, qui ont fait partie des Brigades Rouges,
par exemple.
Et bon, on avait vu ça dans notre actualité à nous, puisque nous avions accueilli des gens qui avaient été engagés par idéologie et qui parfois s'étaient peut-être rendus coupables de choses que la société réprouve.
Absolument.
En gros, c'est ça.
Oui, tout à fait, exactement.
Alors maintenant, c'est où vous avez été pêcher tout ça, Gérald Tenenbaum?
Vous êtes
toujours hanté par la mémoire.
Voilà, il y a une réflexion générale sur la mémoire, sur le traumatisme et sur la mémoire en tant que outil de l'individu pour réagir ou pour dépasser le traumatisme. Alors c'est vrai que la mémoire, c'est à la fois ça peut être un pansement, quand on a reçu un choc, on a quelquefois, après le choc, il y a une bosse ou il y a un œdème. Alors l'œdème à la fois protège la partie qui a été blessée, et en même temps elle entrave, elle bloque. Et donc la mémoire, c'est vrai que dans ma réflexion sur la mémoire, il y a quelques années, j'avais l'impression qu'il y avait comme un défaut de mémoire et qu'il fallait réagir et qu'il fallait retrouver la mémoire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a une sorte de trop-plein de mémoire et que ce trop-plein nous encage, nous entrave et nous empêche finalement de décoder le monde. D'où ce personnage d'Alex qui est hypermnésique, c'est-à-dire qui a une mémoire totale, une mémoire photographique. Il est effectivement capable de se souvenir de tous les signes qui verra sur une affiche, et en même temps qui ne peut plus décoder le monde, qui ne peut plus s'insérer, qui est totalement perdu.
Alors on le sent complètement perdu, donc dès les premières pages du roman, il a le souvenir d'être parti du lieu où il y a eu un drame, lequel nous ne savons pas, mais il y a aussi plus de famille, il n'y a plus personne.
Non, sa famille s'est désagrégée à la
comme
suite
ça peut
de,
arriver
à la suite suite de ce drame, effectivement, il y avait une famille, il y avait un grand-père, bon, qui avait disparu, il y avait son père, sa mère, sa tante, ce drame a effectivement désagrégé totalement la famille. Son père est venu le voir plusieurs fois quand il était en foyer, et puis finalement un jour le père est venu et il a compris que ce serait la dernière fois qu'il ne le reverrait plus.
Et ça, c'est le drame. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer le travail de Sandra. C'est quand même un personnage clé, si je puis dire.
Absolument.
Mais elle s'attache. Bon, il a sensiblement le même âge qu'elle.
À peu près, de la même génération.
Un petit garçon pour elle, puisqu'on sent qu'elle veut aller au cœur de ce drame d'enfance. Et puis, elle a un mari, Raphaël, qui a... quand on parle de souffle, il y a quelque chose qui est très révélateur et qui, moi, m'a bouleversée. C'est le jour où Raphaël, il y a une fausse route avec une crevette.
Voilà.
Et que Raphaël va se retrouver sur la route. Alors, ça va dans le sens avec Jean-Claude Deray, puisque c'est une histoire de souffle. Savoir où est-ce qu'on met ses pas, si on les met dans les pas de son père, qui lui les a mis dans les pas du grand-père.
Voilà.
Et là, on a un homme qui a épousé Sandra, qui est allé contre les traditions de la famille, puisqu'il est juif, et il a pris une goye.
Voilà, il a épousé une non-juive, et finalement, il n'est pas capable d'assumer ce choix jusqu'au bout. Et finalement, cette fausse route, et c'est le symbole d'un homme qui a fait fausse route. Voilà. Et il se rend compte à ce moment-là qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, en particulier, il ne peut pas avoir un enfant avec elle.
La religion est transmise par la mère dans le judaïsme.
Donc finalement, il s'arrête au bord du... Il ne peut pas aller plus loin, et il se rend compte que finalement, c'est un échec, alors qu'il a toujours des sentiments très forts pour elle.
Et elle aussi.
Et donc, c'est ce couple qui se désagrège et qui est effectivement dans une grande douleur.
Alors, je vais lire un tout petit extrait parce que je trouve qu'il faut quand même qu'on sache un peu les pensées de notre jeune héros, entre guillemets, malgré lui. Zut, je fais des repères et c'est là où je les trouve plus. C'est bon, c'est pas grave, ça va revenir. Si, c'est justement tout le début pour montrer un peu cette belle montagne qu'il a quittée. Je pensais à Jean Ferrat, mon Dieu que la montagne est belle.
C'est vrai.
C'est un petit peu ça, vous y avez peut-être songé. Vous avez le même nom que lui et vous n'êtes pas parents.
Non.
On doit vous le demander souvent depuis, non?
Depuis sa mort, oui. Mais avant, on ne savait pas tellement qu'il s'appelait...
Que Jean Ferrat s'appelait Tenenbaum de son vrai nom.
Oui.
Mais ils ne sont pas parents. La fourgonnette ahannait dans le virage. Quand on retentit les deux coups de klaxon familiers, Alex s'est immobilisé sous la grande table de la cuisine. Il a gardé en main le petit cheval de bois qu'Ange lui avait rapporté la dernière fois. Un pur sang, galopant, crinière au vent, sans le lâcher, se ruant dans l'escalier, il a grimpé à l'étage. Sur la loge ouverte, au vent séchait encore les boîtes de foin et les rondins de bois humides, mais il s'est faufilé avant que le bourdon jaune n'atteigne le virage suivant. Il savait lire depuis plus d'un an. Jubilant, si savant, il a déchiffré tout haut les grosses lettres noires. Ange Blandin, répare tout chez vous, vite et bien. Il a ensuite pointé le doigt vers la camionnette, virgule à présent immobile dans l'épingle à cheveux. Puis il a crié, bien fort pour être entendu, jusque dans l'auto, comme par chez nous, on appelait la cuisine. « Maman, maman, c'est papa qui revient !» En redescendant l'escalier 4 à 4, il a entendu l'eau couler. Ange aimait boire son café chaud. Et puis on le retrouve aussitôt. Alors c'est ça, où le lien est bien fait. C'est un souvenir de café et de boisson. Absent d'ici, mais présent là-bas, Alex Orange, les verres refroidis sur l'étagère qui surplombe le bar. Et les gestes vont à chaque fois réveiller la mémoire, les rencontres aussi avec Sandra.
Oui, tout à fait.
Beaucoup, le coin du voile va se lever tout doucement.
Oui.
Mais surtout, Sandra, elle vit une histoire parce qu'un jour, elle reçoit quand même des appels téléphoniques d'un bel Italien.
Voilà, Sandra a rencontré un Italien qui l'a sauvée un jour où elle est passée au coin d'un bois où elle n'aurait pas dû. Et cet homme a fait un peu office de père pour elle, puisque il est arrivé dans sa vie, bon, il avait à peu près l'âge de son père, il est arrivé dans sa vie au moment où son propre père, Sandra, était en train de s'éteindre, victime d'un cancer. Et donc, et puis ce bel Italien était un réfugié, donc ex des Brigades Rouges. Et donc, bon, effectivement, ça a éveillé en elle bon, des sentiments romantiques. Et elle a gardé des liens d'affection profonde pour cet homme, bien qu'il soit finalement dans des mondes extrêmement différents, puisque lui dirige un club de boxe. Bon, c'est quelqu'un d'assez physique, alors que elle est une...
C'est très important la boxe, hein, parce que notre petit Alex aussi va boxer.
Alors que elle est une universitaire, mariée à un psychanalyste, donc ils sont dans des mondes différents, mais tout de même, il y a une relation très profonde. Et donc, quand Fulvio, donc cet Italien, va se retrouver avec des ennuis, eh bien Sandra va tout faire pour le sauver.
Alors, il y a aussi de belles réflexions. L'Italie est bien dépeinte avec ses couleurs, avec ses odeurs. Quand vous dites l'Italie, paradis perdu, on la connaît sans y aller. Elle n'est jamais loin, on la porte en soi. L'Italie, c'est une musique, un accord frisili de la voix des grands-parents, attouchement du soleil, comme celui d'ici, mais avec une couleur de plus à laquelle les palettes d'ici n'ont pas accès. Terre de sienne, sauge, lavande, mélèze, céladon, bleuet. L'Italie de Raphaël, c'est la Shoah, sauf qu'il y va tous les jours. Juif, lituanien côté paternel, marocain du côté maternel. Sa famille a été relativement épargnée par le génocide, mais son parcours professionnel l'a progressivement mené sur les chemins de la blessure. Seconde, troisième génération, enfant des guerres et du silence, groupe de parole, cercle de discussion, non dit, indicible. Au début de la seconde intifada, Raphaël a décliné une invitation à se rendre au Moyen-Orient pour un rapprochement entre professionnels de la santé mentale, israéliens et palestiniens, deux peuples, une seule humanité, disait la lettre d'accompagnement. Un autre accrochage s'en est suivi, dont pour le coup, Sandra se souvient précisément des enjeux. Alors Handel à Londres, c'est le larghetto du concerto en si bémol majeur opus 4. Le concerto, c'est le numéro 6 pour harpe et orchestre. À la harpe, c'est Lily Laskin, bien sûr. Et c'est l'orchestre de chambre de Jean-François Payard sous la direction de Jean-François Payard. J'ai tout dit sans me tromper. Au fil des pages, RCF. Toujours avec nos invités, c'est une histoire de souffle, Jean-Claude Deray, Papoua, l'histoire d'un missionnaire et de son fils spirituel François, lui-même Papou, donc faut-il aller convertir les Papous? Mais ça va bien plus loin que cela, c'est vraiment une histoire de racines, c'est aux éditions Alphée. Et Gérald de Tenenbaum, souffle couplé aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc on essaie de disséquer, mais c'est difficile, il faut raconter, donner le goût, mais il faut surtout pas dire, là pour le coup, l'intrigue. Il faut garder le mystère. On va pas tout dire. Alors, puisque on a toujours le couple chez notre jeune Alex, il y a quand même une photo qui l'intrigue. Il y a la photo où on voit une jeune femme qui tient, qui est sa grand-mère, je pense, qui tient deux petites filles. à la main.
Oui, effectivement.
C'est ça, c'est
oui,
bien, c'est oui, bien ça. Il y a deux filles.
Non, son grand-père voilà. qui tient deux filles à la main, sa mère et sa tante.
La jupe claire
voilà.
et la jupe foncée.
Voilà, la jupe claire et la jupe foncée.
Donc absolument. Une des deux est sa maman. Ce sont les deux sœurs.
C'est ça, les deux sœurs.
Ce sont les deux sœurs. Donc on a le couple, mais on a aussi. Donc on va voir dans les souvenirs de Alex, mais sans dire qui. Il y a des jumeaux qui boxent.
Voilà, il y a des jumeaux, effectivement. Bon, tout le livre est traversé par ces figures du double. J'ai été amené à joindre ces figures du double à la mémoire parce que finalement, la mémoire, c'est ce qui nous permet à la fois d'être et d'avoir été, c'est ce qui nous permet d'être ce qu'on est et d'être un double de soi-même. Et donc, la mémoire, d'une certaine manière, je dirais qu'elle nous double, c'est-à-dire qu'elle nous duplique, elle nous rend double, mais elle nous double aussi dans le sens qu'elle nous trompe. Donc, voilà. Donc, c'est
elle
vrai
nous
que,
entraîne voilà, là où on
elle
ne
voudrait
pas forcément
voilà,
aller.
Et donc, c'est cette. Et donc, toutes ces figures du double dont on comprendra à la fin du livre que la faute originelle finalement vient aussi d'une sorte de fascination du double traverse toute la vie d'Alex et donc à chaque fois qu'il a besoin de choses fixes et quand il y a des miroirs, quand il y a des reflets, il est toujours très mal à l'aise.
Il est très mal à l'aise. Alors ce qui va être très beau, ça me rappelait aussi l'innocence de François, c'est chez Jean-Claude Deray, c'est lorsqu'ils vont faire ce long voyage en voiture pour retourner au village de l'enfance puisqu'il en connaît le chemin. C'est les comptines qui vont arriver, mais toujours là, c'est double. Il y a le jardinier, la jardinière du roi, etc.
Oui,
et les deux peuvent chanter ensemble. Oui. Moi, je verrai un très beau film avec ce livre.
C'est vrai.
Avec ces effets,
ce sont des images.
Mais c'est vraiment très beau. Hein.
Oui.
Alors, quand on voit aussi les histoires de jumeaux, alors c'est vrai que vous n'avez peut-être pas choisi Grenoble et la Savoie et le côté italien, parce que Rome s'est fait aussi avec une louve qui a allaité deux enfants.
Romulus et Rémus, d'ailleurs, on en parle
dans le livre.
On en parle dans le livre, effectivement, et c'est le jour où le maître d'école raconte cette histoire aux enfants, ça déclenche finalement une bagarre assez violente.
Terrible.
Une bagarre terrible dans la cour de récréation à laquelle Alex est finalement contraint de participer.
Mais il ne faut pas tout dire parce qu'on va dire ce qu'il ne faut pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui revient aussi la mémoire du maître, comme quoi, parce qu'à plusieurs reprises, le maître qui a une classe où il y a plusieurs niveaux, donc fait la dictée, puis continue pour les grands et les autres s'occupent.
Voilà,
l'école est très très importante et c'est l'école qui, au fond, va le réconcilier avec lui-même.
Oui, c'est tous ces souvenirs d'école sont pour lui très importants puisqu'il a perdu. Ce qu'on apprend à l'école, il a perdu la lecture. Donc et il se raccroche à ses souvenirs, ces flashs de mémoire qui reviennent comme ça, comme le ressac de la marée. Et il s'accroche à ses souvenirs sans toutefois être capable de retrouver ce qu'il a perdu. Et pour retrouver ce qu'il a perdu, il va lui falloir un courage exceptionnel. Et finalement, ce sont les sentiments qu'il éprouve pour Sandra au moment où alors qu'il est avec tous ses problèmes, il a l'impression que jamais, je veux dire, lui, un barman, il est dyslexique, jamais il pourra séduire une femme comme elle. Et un jour, il se trouve que, bon, par le hasard des circonstances, il peut faire quelque chose pour
Mais
elle, quelque chose d'important.
Parce qu'il fait un pas, il va rendre service.
Voilà, il va rendre service.
Je pense que dès l'instant qu'il sort de sa fonction de barman, parce qu'il va s'intéresser aux autres, du moins, la fissure se produit dans la carcasse, dans le scaphandre qu'il s'est créé pour se protéger, puisque s'il n'arrivait plus à se souvenir, c'est un scaphandre. Et dès l'instant qu'il y a la fêlure, c'est parce qu'il rend service et il peut aimer.
Je crois que la guérison vient par là. Là, vous touchez un des points qui est essentiel pour moi, c'est que je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est individualiste jusqu'à l'autisme, et j'ai eu envie de mettre dans ce livre des valeurs simples, des valeurs fondamentales, des valeurs toutes bêtes, comme effectivement la l'amitié, la solidarité, des gens qui sont capables de faire des gestes les uns envers les autres. Et c'est vrai que dans ce livre, presque tous les personnages, finalement, enfin tous ceux qui s'en sortent, sont des gens qui aident, qui s'entraident les uns les autres.
C'est pas finalement un livre si triste.
Non. Hein? Je pense que c'est un livre optimiste finalement.
C'est une montée vers la lumière. On va vers les cimes.
Tout à fait. Alex est comme un ange déchu tombé dans la ville de Grenoble qui est dans la vallée, et toute l'histoire est l'histoire d'une reconquête de lui-même et d'une remontée vers les sommets.
Il y a des phrases qui sont quand même très fortes et qui sont à méditer. Hein. Fulvio lui fait face presque à reléguer Sandra. Un inexplicable courant, non, c'est pas la page que j'avais choisie, mais c'est pas grave. Il y a comme sur l'Italie tout à l'heure, c'est un haut de page. Non, c'est ça, c'est l'histoire du syndrome. Bon, allez, ça y est, j'ai encore raté quelque chose. Non, c'est pas tout à fait ça. Je continue à lire ce que j'avais dit. Donc, un inexplicable courant passe entre ces deux-là à Naples. On paie pour voir si, à la montagne, on attend pour savoir.
Oui, c'est vrai que le temps n'est pas le même.
Voilà, c'est pas la même chose.
Retrouver le temps, être capable d'attendre. Et puis, c'est vrai qu'à la montagne, la solidarité est quelque chose d'indispensable. Quand on descend, quand celui qui descend de la montagne et celui qui monte se croisent, et que celui qui monte demande comment c'est là-haut, celui qui descend ne peut pas faire autrement que de dire, bah oui, attention, il y a des nuages, on attend ceci, on attend un orage, ou le ciel est couvert, ou au contraire, il fait beau. C'est rencontrer un être humain dans toutes ces contrées du monde où la nature est dangereuse, c'est un événement. Donc la solidarité, c'est un mode de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a perdu. On croise des gens sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir. Et j'ai eu un petit peu envie de trouver un espoir dans ce mode de vie.
Alors, il reste 4 minutes, je vais vous poser des petites questions rituelles que je pose à tous les auteurs quand ils arrivent à être ensemble jusqu'à la fin de l'émission. C'est toujours des gens très pressés, les écrivains. Gérald, vous faites des mathématiques et vous écrivez aussi, j'admire.
Oui, ça m'arrive.
Alors, Gérald, vous écrivez quand? Le matin, le soir, l'après-midi, comment ça se passe?
Alors, c'est plutôt, disons, dans le temps, c'est-à-dire que j'ai des périodes d'écriture, mm-hmm. et quand j'écris tout le temps, c'est-à-dire voilà. que je me mets...
Ça reste très serré,
parce que effectivement, comme j'ai une vie d'universitaire par ailleurs, donc j'ai très peu de temps, et quand je débloque du temps pour l'écriture, à ce moment-là, c'est toute la journée.
Et la nuit aussi, je crois.
Et la nuit aussi, beaucoup la nuit, mais c'est vrai que j'y suis. Je suis plongé totalement.
Jean-Claude Doré, comment ça se passe? Quand on est en voyage tout le temps, alors on n'emmène pas son ordinateur?
Non,
vous écrivez à la main?
Non, surtout pas. Non, j'écris quand je reviens.
Quand vous revenez.
Et en même temps, je pensais à... Il y a une phrase de Fellini que j'aime beaucoup qui dit « Ce que j'apprécie le plus dans un film, dans un livre, c'est l'énergie qui s'en dégage. » Alors quand je sens que mes batteries sont chargées, j'écris. Et quand je sens que la tension tombe,
vous reprenez le sac.
Voilà, je repars, etc. Mais en général, c'est assez intense et c'est très court. Ça peut être un mois et demi. Je pars, ça refroidit, je reviens, je reprends et je réécris de A jusqu'à Z 10, 15 versions.
Gérald Tenenbaum, le plus beau mot de la langue française pour vous?
Solidarité.
Chez vous, Jean-Claude?
Libertaire.
Libertaire. Est-ce qu'il y en a un que vous n'aimez pas, Gérald?
Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse.
Fatalisme.
Fatalisme. Oui. Vous le refusez?
Totalement.
Si je le trouve un jour dans un livre...
Il faudra l'interpréter.
Est-ce que la musique a une grande importance pour vous, Gérald Tenenbaum?
Elle a une importance. Disons que je ne vis pas dans un univers musical, mais j'ai toujours rêvé, par exemple, d'écrire un livre ou une nouvelle sur une musique. C'est vrai que quelquefois les musiques qu'on entend sont tellement évocatrices que je me suis toujours dit que bon, ça pourrait être une expérience très intéressante.
Et vous, Jean-Claude Doré?
La musique, elle est essentielle dans la mesure où on écrit. En fait, c'est un livre à sa petite musique, voilà. Pour mettre au monde une petite étoile dansante.
Merci. Alors, je vais rappeler le titre de vos ouvrages. Jean-Claude Deray donc, a écrit « Papoua » aux éditions Alphée. Quant à Gérald Tenenbaum, « Souffle couplé », c'est chez Héloïse d'Ormesson. C'est Renaud Fluzin qui a réalisé cette émission. Brillamment, comme toujours, nous avons les meilleurs ingé-sons, comme disent les jeunes. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres auteurs de qualité, d'autres bons romans, je vous le promets. Et vous le savez, comme je vous aime bien, je vous embrasse. À bientôt.
Je vous redonne les références des livres que nous a présenté Elise Fischer cette semaine. Il y avait aux éditions Alphée le roman Papoua, signé Jean-Claude Deray, D-E-R-E-Y. Et l'auteur Gérald Tenenbaum nous parlait de Souffle couplé, qui lui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson.